Très bien. Vous avez vu vendredi, ça s'est confirmé là samedi, le ministère de la Santé qui a ouvert une boîte de courriel spéciale pour permettre aux travailleurs de la santé de dénoncer des situations inacceptables en milieu de travail tout en garantissant la confidentialité. Quand j'ai vu ça, sérieusement, j'ai un petit peu étouffé parce que, un, c'est assez rare que le ministère, de façon vraiment sincère, s'ouvre aux dénonciations. D'abord, n'eût été des employés du réseau de nous parler des problèmes de pénurie de masques, d'équipements de protection, on ne l'aurait pas su. Puis à chaque fois que les gens, que ce soit ici ou ailleurs dans les autres médias, signalaient le problème, c'était « protégez-moi, assurez-nous la confidentialité ». Ces gens-là n'avaient pas parlé, on n'aurait pas eu vent de ce qui se passait vraiment dans les centres de soins de longue durée. Si les gens n'avaient pas parlé, on n'aurait pas pu avoir l'info, qui se confirme toujours un peu après, qu'il y a des gens qui tentent peut-être de jouer avec les primes actuellement dans le système. Donc, j'en parle avec Jean-Philippe Descaries-Mathieu, qui est chef de la cybersécurité chez Vigile.ca. Quand on dit, Jean-Philippe, en toute confidentialité, en toute sécurité, est-ce que c'est vrai ou pas?
Ben, dans ce cas-ci, où c'est une simple boîte courriel qui est créée pour accueillir les dénonciations et les messages qui sont censés être confidentiels, non, parce que une boîte courriel, il faut comprendre comment que le courriel fonctionne. Là. Moi, quand j'envoie un courriel à quelqu'un, en transit, le courriel, il est pas chiffré. Donc, n'importe qui est capable d'intercepter le courriel peut lire le contenu du courriel. Ça, c'est déjà une chose assez grave au départ, si on veut permettre la confidentialité d'un message. Ça marche déjà là, à ce niveau-là, ça marche pas. Maintenant, il y a ce que le courriel, ce qu'on fait avec le courriel, une fois qu'il arrive à sa destination, dans ce cas-ci, sur un serveur du ministère de la Santé. Une simple boîte courriel, encore une fois, le chiffrement qui est notre meilleur outil pour garantir que le contenu du message se trouve pas dans les mauvaises mains, il est probablement pas très présent dans une simple boîte courriel. Là, il faudrait voir exactement comment que le ministère de la Santé fonctionne, mais traditionnellement, là, ce que je sais du gouvernement ou autre, là, c'est pas exactement la fine pointe de la dernière technologie de chiffrement d'habitude.
OK, mais je comprends du côté du gouvernement. Mettons que moi, là, je suis un employé du ministère, là, en fait, du réseau de la santé. Je veux envoyer un message pour dénoncer une situation. Comment je fais pour envoyer un message vraiment confidentiel là, qui ne peuvent pas remonter à moi, là?
Bon, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des manières de le faire, mais on pèle ce fardeau-là dans la cour des lanceurs d'alerte puis les personnes qui veulent dénoncer quelque chose. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on va absolument utiliser cette méthode-là, qui est pas confidentielle, malgré le fait que peu importe ce qu'on peut dire. Il faudrait s'ouvrir un compte courriel différent, du compte courriel qu'on utilise à tous les jours, que souvent le préfixe de l'adresse courriel a de l'information nominative sur nous, soit notre nom, soit quelque chose qu'on aime, notre date de naissance, quelque chose comme ça. Donc, quelque chose de complètement différent là, sur un compte. Si on utilise un compte Gmail, il faudrait s'ouvrir un compte Hotmail avec un nom d'usager qui n'a rien à voir avec nous pour être sûr que c'est pas possible de remonter le filon. Parce que normalement, si on utilise une adresse courriel de tous les jours, quand on envoie un courriel, il y a toutes les métadonnées qui tournent autour d'un courriel. Donc, qui a envoyé le message, par quel fournisseur d'accès, même par quel serveur ça a passé, tout ça, c'est disponible dans une simple boîte courriel. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas parler de confidentialité quand on envoie un courriel. C'est que c'est possible de remonter le filon. Donc, si on veut absolument utiliser ce service-là, il faut s'ouvrir un autre compte courriel complètement différent, s'assurer qu'il n'y a aucune information nominative rattachée à ce courriel-là et qu'il n'y a pas de manière de faire un lien entre nous et ce nouveau courriel-là. Donc, ça, pour quelqu'un qui veut dénoncer quelque chose, c'est juste pas un bon système. C'est pas sérieux. Là.
OK, parfait. Je veux t'entendre sur cette application dont on parle beaucoup, là, qui est développée à Montréal avec l'intelligence artificielle. Yoshua Bengio qui en parle. Et là, on nous dit que probablement d'ici un mois, ce sera disponible pour justement retracer l'évolution de la contagion, que c'est un outil de santé publique efficace. Et évidemment, il faut accepter d'y participer comme citoyen, il faut prendre l'application, l'avoir sur son téléphone, puis fournir donc automatiquement de l'info. Il faut qu'il y ait un débat, de discussion là-dessus là, quand même, parce que c'est de l'info privée là, qu'on va donner.
Moi, je trouve que on se précipite tête première dans une solution qui n'a pas fait ses preuves à date. Je veux pas cibler spécifiquement cette application-là, mais les applications de tracing en général dans un cas de pandémie comme ça, ça n'a pas été démontré que c'est efficace. On regarde certains pays là, qui l'ont essayé comme Taïwan, la Corée du Sud, d'autres pays notamment comme Singapour. On a l'impression que ça marche parce que ces pays-là ont un contrôle efficace de la pandémie, mais c'est pas lié à ça. Il faut comprendre une chose. Ces applications-là, la manière que ça fonctionne, généralement, c'est par Bluetooth. Bon, on connaît la technologie Bluetooth, technologie de communication. On pense que c'est surtout pour connecter notre casque d'écoute au téléphone, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, on peut l'utiliser pour positionner quelqu'un à un endroit physique. La manière que ça fonctionne généralement par balises qui sont un peu partout, qui se connectent au téléphone, puis ça leur permet à l'intérieur de la portée de Bluetooth, de détecter la personne est où exactement. Le plus gros problème avec ça, c'est justement la portée Bluetooth. C'est pas précis au centimètre près, ça. Ça, c'est précis à quelques pieds de distance, des fois quelques mètres. Le problème, c'est que le fameux 2 mètres de contagion qu'il faut éviter tombe dans la marge d'erreur de localisation du service Bluetooth. Donc, on n'est pas plus avancé. Je veux dire, si on a une application sur notre téléphone cellulaire, qui nous géolocalise à peu près, mais qu'on sait très bien qu'en dedans de 2 mètres, ça devient carrément dangereux, surtout si on n'a pas de masque. Moi, d'ailleurs, je fais une parenthèse, ça me flabbergaste qu'on ne porte pas plus de masque que ça quand on sait que ça, c'est prouvé leur efficacité, mais qu'on va se rabattre tout de suite sur des outils technologiques pour essayer de nous sauver comme si c'était une panacée. Là. En tout cas, bref, je retourne la parenthèse, mais ça tombe directement dans cette marge d'erreur-là. Puis 2 mètres, là, on le dit souvent, là, de 2 mètres, c'est quand on croise quelqu'un à l'extérieur dans la rue quand les conditions sont idéales. Mais à l'intérieur, dans un bureau, par exemple, dans une aire ouverte, puis quelqu'un éternue, c'est plus 2 mètres, là, c'est 4, 5, 6, 7 mètres facile. Donc, à quel point l'application peut s'ajuster? Ça, c'est tout. C'est juste l'aspect technique.
Oui, il y a la volée des données, parce que quand tu acceptes de prendre l'application puis de participer, il faut que tu donnes ton nom, ton état de santé, ton sexe, bref, une série de questions privées pour aller sur une banque de données pour éventuellement, pour être capable de faire ce tracking-là de l'épidémie.
Est-ce qu'on a un droit de regard là-dessus? Comment ça va être géré? Qu'est-ce qu'on va faire avec les données après? Comment qu'on va refermer cette boîte de Pandore-là? Puis ça, ouais. On l'a vu au fond. Quand les crises qu'on a subies dernièrement, je pense au 11 septembre ou autre dans le cours de l'humanité, je veux dire, c'est toutes les technologies de tracking, de surveillance, de programmes de contrôle social, ça disparaît pas, ces programmes-là. Ça endure, c'est là pour rester. Puis il y a des sérieuses questions qu'il faut se poser là-dessus. À quel point c'est efficace, que même si c'est volontaire l'installation. On regarde à Singapour, un des pays qui a eu le plus de déploiement de ce genre d'application-là, puis c'est juste un Singapourien sur 5 qui l'a installé, sachant que c'est aérobiose, sachant que le virus peut se déposer sur les surfaces puis rester pendant des jours. À quel point ça aide vraiment ce genre de bidule-là, j'en suis pas convaincu.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Descaries-Mathieu, qui est chef de la cybersécurité, vigile.ca.